Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
La capacité libératoire de la littérature s'enroule autour de la vraisemblance et du réel dans un sens qu'elle cherche à maîtriser. C'est à cette exploration de ce 11e volet de libre-échange que nous allons nous livrer. Par le sceau du langage, la littérature est-elle l'enfant rebelle de la société ?
Alors, ce que la littérature dit du monde et peut-être aussi ce que le monde dit de la littérature. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux écrivains formidables, je le dis, là je le dis en tant que libraire, que je vais présenter en deux mots, Patrick Tudoret, notamment pour son dernier ouvrage, dont on parlera assez largement, L'homme qui fuyait le Nobel, entre parenthèses, ou plutôt sur le bandeau jusqu'à Compostelle, édité chez Grasset avec un très beau succès, beaucoup de lecteurs, des prix à la clé aussi, écrivain, dramaturge, critique aussi à ses heures, poète, essayiste, l'écrivain sacrifié, on en parlera aussi sur l'émission littéraire, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aussi, donc on s'expose. Et Pierre Jourde, que les Chartrains commencent à connaître, parce que Pierre Jourde est venu très souvent nous rencontrer à la librairie et qui vient de faire paraître le deuxième volume des chroniques de son blog. Le premier tome s'appelait C'est la culture qu'on assassine. Le second, La culture bouge encore. C'est plutôt une bonne nouvelle. Critique et écrivain d'abord, puisqu'il accompagne aussi ici Patrick Tudoret en ami. Il faut dire qu'ils se connaissent très bien tous les deux et que c'est aussi Pierre Jourde qui a invité Patrick Tudoret aujourd'hui. Nous sommes là pour parler peut-être de la littérature et du monde. On a l'habitude d'associer la première souvent à l'imaginaire, le second plutôt à la réalité. Le titre peut les opposer, on opposerait peut-être aussi l'art aux prosaïques contingences de notre quotidien. C'est peut-être un peu plus nuancé que ça. On va explorer ça, on va essayer de voir peut-être pas ce qu'est la littérature, ça serait un sujet bien trop vaste, ni ce qu'est le monde, sujet tout aussi vaste, mais quelque chose du rapport entre les deux. Alors la littérature, il y a beaucoup de genres évidents qui pourraient d'emblée être l'objet de la discussion. On peut penser à l'autofiction, c'est pas bien sûr la seule chose, mais l'autofiction ici dont nous avons un spécialiste critique, Pierre Jourde. Alors, est-ce que l'autofiction est une façon justement de rapprocher la littérature et le monde, ou en tout cas d'être dans la plus grande proximité, la plus grande parenté entre l'un et l'autre, ou l'une et l'autre ?
J'ai longtemps cru que l'autofiction, c'était une manière d'inventer des voitures qui n'existaient pas, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'effectivement, il y avait un genre qui s'appelait comme ça. On pose la question ce que la littérature nous dit du monde, son rapport avec le monde. J'entends deux choses. J'entends presque comme une injonction morale, c'est-à-dire qu'elle aurait à dire quelque chose du monde, ce qui est peut-être déjà une affirmation à mettre en cause. Et deuxièmement, j'entends la certitude que le monde, lui, il existe. C'est pas lui qui est en question, c'est la littérature qui est en question. Et c'est précisément là, à mon avis, qu'il faut reposer les termes du problème. Bon, il y a un premier point. Le monde existe-t-il ? Or, c'est une des tâches de la littérature, parfois, que de remettre cette certitude en question. J'en veux pour preuve un certain nombre de nouvelles de Borges qui se posent cette question-là. Le monde existe-t-il ? À partir notamment de la philosophie de Berkeley. Or, nous avons un peu perdu l'habitude de ce type de relation entre, entre littérature et monde. Et puis, à supposer qu'il existe, donc, si nous posons qu'il existe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose dont la littérature va devoir rendre compte ? Comme si c'était un élément préexistant, une certitude préexistante. C'est justement ce qui me gêne un peu dans l'invasion aujourd'hui. Alors, le genre romanesque s'est imposé, est devenu le genre majeur dans les années 1830 à peu près, à partir donc des grands romans de Balzac, de Stendhal. C'est au 19e siècle qu'il a vraiment, ça a pris un certain temps, hein, qu'il a pris le pas sur le théâtre et sur la poésie, qui étaient les grands genres avant lui. Hein. Le roman était un petit genre, un genre même un petit peu interlope, disons. Et puis, c'est en gros au 21e siècle que cette prééminence commence à être mise en cause à partir des genres qui sont à la fois biographiques et autobiographiques. Si vous regardez un peu ce qui sort actuellement, on a l'impression qu'on ne parle presque que de, employant le terme que les Américains emploient pour les films, que des biopics. Ça semble toujours être une bonne idée d'aller chercher un personnage très connu, voire d'exhumer un personnage peu connu, et d'en raconter la vie. Tout le monde sera content parce qu'on aura l'impression d'apprendre quelque chose. Et c'est toujours important quand on lit, on se dit « Ah ben voilà, j'apprends à connaître quelqu'un, ou j'apprends à connaître quelque chose, j'apprends à connaître le monde. » Ou alors soit parler d'un personnage, raconter la vie d'un personnage. Je pense par exemple à Charlotte de Fuenquinos, qui est allée chercher un personnage en quelque sorte idéal, parce qu'en plus il y a les camps de concentration. Donc on a là une espèce de sujet idéal pour faire un roman et un succès, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs. Ou bien parler de soi. Ce qui me gêne dans ces deux démarches, c'est que leur succès semble procéder du fait que nous sommes assurés que quelque chose existe, que ce quelque chose a en quelque sorte une valeur en soi, je suis moi et donc c'est bien, qui est en quelque sorte l'idéologie dominante aujourd'hui des médias, hein, et de notre représentation du monde. D'une certaine manière, la fonction de la littérature ne serait plus qu'une fonction de traduction, hein, de traduction de cette réalité préexistante. Quand on pose la question du monde, quand on pose la question de la réalité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour nous que le monde, au fond ? Par quoi existe-t-il ? Par quoi vient-il à nous ? Mais il ne vient plus à nous, en dehors de ce qu'on pourrait appeler une expérience immédiate sur laquelle on pourrait revenir, il ne vient plus à nous que par une forme de représentation qui est la représentation médiatique. Et donc, nous serions dans une situation où la littérature, ayant à représenter le monde, aurait en quelque sorte à représenter, donc à doubler la représentation médiatique. C'est d'ailleurs ce qui ne manque pas dans un certain nombre d'entreprises littéraires. Mais je m'arrête là pour laisser la parole à Patrick, peut-être.
Oui, donc pour embrayer sur ce que Pierre-Jean vient de dire, effectivement, donc, je me permets humblement de faire référence donc à mon essai sur les émissions littéraires et leur fin tragique, leur naufrage. Et pour citer une anecdote que j'ai donc donnée dans le livre, et ça a été rapporté par un éditeur qui un jour, arrivant sur un stand où signait un écrivain, eh bien s'approche et puis entend une lectrice s'adresser à cet écrivain un peu connu, un écrivain un petit peu ce qu'on appelle un bon client de la télévision, et la dame de lui dire avec un air tout à fait Benoît, de lui dire « Ah, je suis très content de vous voir, mais et pour vous dire tout simplement que maintenant que je vous vois à la télévision, je n'ai même plus besoin d'acheter vos livres. » Donc voilà, c'est assez tragique, histoire vraie. Hein. Et ça dit un petit peu justement toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à parler de littérature quand il y a beaucoup d'écrivains sans œuvre, quand il y a effectivement un grand schisme, je dirais, entre des écrivains qui s'attellent à élaborer humblement, de manière aratoire, une œuvre dont on verra le rapport avec le monde. Pierre parlait d'injonction morale, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a ce mot de Kant, hein, « Deux choses m'émerveillent, la voûte étoilée au-dessus de moi, la loi morale en moi ». Et comment rendre justement la grandeur, l'immensité, l'infini même de la voûte étoilée, métaphore évidemment, en gardant en soi cette loi morale qui nous oblige. Écrire, ça oblige. Voilà. Et ça oblige notamment à dire une certaine vérité. Là où on a vraiment l'impression aujourd'hui, plus que jamais, avec la surmédiatisation, l'intervention de médias en temps réel, comme on dit, expression de communicants, on a vraiment l'impression d'avoir un monde complètement médié, mais au sens de multiplication des filtres. Et je dirais que la littérature, d'une certaine façon, ça consiste, c'est un jeu très difficile qui consiste à la fois à transfigurer le réel pour en faire, si possible, une œuvre d'art, et en même temps, ça consiste, on est obligé de le faire, à enlever les un à un tous les filtres de la doxa dominante, de la bien-pensance, du politiquement correct, etc., pour parvenir à quelque chose qui est un peu de fond. Voilà. Donc ça consiste à enlever tous les filtres que constamment les médias, notamment, mettent entre la réalité et nous.
En fait, la littérature dirait vrai, tenterait de dire vrai. Dans ce que vous dites, je vous repasse la parole, je vois que vous impatientez, je vous repasse la parole tout de suite, je vous rassure, mais dirait vrai, loin des filtres, loin des médias. Alors, est-ce que c'est parce que l'art suppose une forme et que cette forme serait vraiment peut-être le point de réel le plus évident de la littérature, ou est-ce que c'est parce que simplement la littérature dévoile, comme disait un critique, Pierre Jourde, dans un essai qui s'appelait « La littérature monstre », au sens aussi où il y a des monstres en littérature, mais où elle montre, plus qu'elle ne démontre. C'est ce que vous voulez dire, peut-être, par là ?
La monstration,
oui. Ouais. Mmh. La monstration au lieu de la médiatisation.
Oui, enfin, c'est pas, à mon avis, c'est pas assez dire, quand on parle de monstration ou de dévoilement, c'est pas assez dire. L'homme est cette créature qui, parmi toutes les autres créatures, a cette spécialité de sécréter indéfiniment de l'illusion et du mensonge. Et pas seulement collectivement. Je veux dire que notre vie collective, certes, à des degrés variables suivant le système politique, est régie par l'illusion, mais notre vie intérieure est régie par l'illusion. Ce n'est pas la psychanalyse qui dira le contraire. Par conséquent, lorsqu'on dit que la littérature a à dire vrai, je crois qu'elle a à dire vrai d'abord dans un sens critique, tu as cité Kant, au sens où l'employait Kant, c'est-à-dire par défaire les systèmes d'illusions que nous fabriquons. Je crois qu'il y a déjà ça. Je crois qu'il y a dans la littérature une fonction critique qui est d'une tabula rasa phénoménologique par rapport à nos illusions et à nos mensonges. Et l'illusion principale, d'ailleurs, c'est l'illusion de l'expérience authentique. C'est-à-dire que je suis convaincu que nous sommes, par rapport à nos expériences, un petit peu comme ces Japonais qui débarquent devant le Colisée, qui font un selfie et qui sont convaincus d'avoir vécu une expérience de Rome. Bien, je crois que par rapport à notre vie intérieure, nous sommes souvent comme ça. Nous faisons des selfies intérieurs, nous nous convaincons d'avoir une expérience intérieure. Je veux dire par là que l'expérience n'est pas un donné. L'expérience n'est pas un donné, l'expérience est une construction. La première illusion, et l'illusion fondamentale, c'est de croire que l'expérience est un donné. Et d'ailleurs, toute la science moderne nous dit que l'expérience est une construction. N'en va pas autrement pour la psychologie que pour la psychologie intérieure, pour le monde intérieur, que pour le monde extérieur. Si l'expérience est une construction, et non pas un donné, tu as posé la question de la forme, je crois que c'est là le rôle de la forme littéraire. La forme littéraire, c'est une construction. Et c'est une construction qui a pour fonction, si ça fonctionne, c'est-à-dire si elle est juste, par exemple si la langue est juste, mais pas seulement, de créer les conditions où, en effet, l'expérience peut advenir.
Mais pour être encore plus précis sur cette représentation, le mot était dit tout à l'heure, vous avez effectivement fait la part de ce qui était une représentation liée au système qui faisait écran, mais il y a aussi la limite de nos capacités, comme vous l'avez dit.
Oui, il y a une donnée anthropologique.
Et
Nous nourrissons d'imaginaire, et ça n'est pas forcément un constat positif.
Tout à fait. Et la question qui me vient est de savoir comment vous placez l'interprétation de faits qui se veulent réels parce que tangibles dans cette capture de la réalité. À savoir, on a vécu des événements tragiques, on en vit encore avec des inondations, on en vit avec des attentats. Comment peut-on s'extraire d'une autre perception du réel que celle qui consiste à regarder des faits en face ?
Il n'y a pas de méthode unique. en ce qui concerne en tout cas la création artistique, ce que je peux dire en ce qui me concerne, ce que je crois, c'est qu'il faut se garder de l'illusion de l'exactitude historique. C'est-à-dire, je vais aller chercher, voilà, je vais construire un roman en allant chercher la réalité des faits, ou je vais construire ma vie en racontant les événements de cette vie. Je crois que si l'imaginaire peut avoir une fonction positive, ce qu'il n'a pas forcément, si l'imaginaire peut avoir une fonction positive, c'est une fonction de synthèse, voilà, de synthèse des expériences. Créer des modèles expérimentaux qui vont ensuite fonctionner dans l'appréhension de la réalité. Un exemple que j'emploie souvent, Julien Gracq a vécu la drôle de guerre, mais il n'a pas raconté sa drôle de guerre. Il a écrit Le Rivage des Sirtes, par exemple, où il a écrit Un balcon en forêt. Il a dit lui-même, d'une certaine manière, ce que je cherchais à faire, c'est à modéliser l'expérience, c'est-à-dire à rendre au fond ce qui était pour moi dans ma vie intérieure et dans mon imaginaire la réalité de cette expérience.
Alors cette expérience a une dimension historique, chronologique, une dimension géographique aussi, mais elle a une dimension linguistique. Est-ce que finalement la transmission ou la représentation du réel par le mot passe par une certaine exigence au niveau de la précision du langage?
Oui, je ne veux pas monopoliser la parole.
Hein. Non, mais tu es en train de le faire.
Parce que Patrick Tudoré a certainement beaucoup de choses à dire.
Je vous écoute avec grande attention.
Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense que quand on écrit, c'est exactement comme quand on compose une partition. Il y a des fausses notes. Et la fausse note, précisément, le manque de justesse esthétique est toujours un manque de justesse par rapport à la vérité. Toujours. C'est-à-dire que, par exemple, ce manque de justesse, c'est j'ai voulu en faire un peu trop, là. J'ai voulu être trop expressif, j'ai voulu faire le malin, par exemple. Ça veut dire que je me suis mis, moi, avant la tâche de l'artiste, qui est de s'effacer complètement au profit de ce que j'ai à construire. Et ça se sent tout de suite. Ça, c'est tout de suite payé cash dans le style.
Alors ça, c'est très compliqué pour l'autofiction, peut-être, d'ailleurs, justement. Parce que
c'est très compliqué pour l'autofiction. C'est possible. Il n'y a pas de genre... Non, mais il n'y a pas de mauvais genre, si je puis dire.
C'est pour ça que la fameuse boutade de Madame Bovary, c'est moi.
Qui n'est pas une citation de l'auteur.
Mais la vraie citation de l'auteur, c'est dans un roman, il faut être partout et surtout n'apparaître nulle part. Voilà, c'est la clé est là. Alors que dans l'autofiction, effectivement, on apparaît nulle part, mais à force d'apparaître, c'est une image que je prenais dans mon livre. C'est comme le négatif photographique. Il y a une telle insolation, c'est-à-dire une telle apparition de la lumière, que la photo, on est surexposé. Et que ce qui, à un moment, apparaît fortement, finit par disparaître. C'est d'ailleurs exactement la destinée de l'écrivain à la télévision. C'est-à-dire que plus il apparaît, plus il disparaît. Hein, parce que son texte disparaît avec lui, c'est-à-dire l'essentiel. Et on n'a plus affaire que des rectos en verso, enfin, quelque chose qui ressortait plus au théâtre de marionnettes qu'à la littérature. Et donc, je pensais au titre d'un livre très très célèbre de M. Schopenhauer, qui est Le monde comme volonté et représentation, qui est son œuvre majeure. Et pour moi, la littérature, c'est ça, c'est-à-dire le monde comme volonté et représentation. La littérature est à la fois volonté, dans toutes les acceptions du mot, vraiment la plus forte, métaphysique, je dirais, puissante, et puis représentation, c'est-à-dire cette capacité... Non pas se contenter d'enregistrer des réalités d'un monde qui serait donné comme celle-là. Il n'y a pas de données, en effet. Il faut aller chercher la représentation, la transfiguration, et parvenir à donner une forme, là on cite pas mal de philosophes, mais Aristote, donner une forme au monde, c'est-à-dire vraiment passer d'une matière inerte à quelque chose qui est en acte et qui est bouillonnant. Et la littérature, à mon sens, c'est ça. Sachant qu'il y a... là un aspect très important qui est dans toute forme littéraire, mais dans toute forme artistique. Umberto Eco a beaucoup écrit là-dessus, mais donc tout ce qu'on appelle la théorie de la réception, qui fait que une œuvre existe ou n'existe pas, hein, comme disait Hans Robert Jauss,
auprès d'un public.
Et c'est vrai qu'il y a là déjà la critique au 19e siècle s'était saisie de ces aspects-là. Mallarmé évoque ça. Il y a déjà cette forme de cette mise en forme par la réception qui est fondamentale. Après, Est-ce qu'on est dans le calcul, pour permettre à cette réception d'être en adéquation parfaite?
Ah, je pense qu'il y a des romans qui sont prévus déjà, qui sont formatés pour une certaine réception.
C'est exactement ce que je voulais entendre de Pierre-Jean. Parce que on le voit, il y a aujourd'hui, jamais il n'y a eu un tel formatage, jamais il y a eu une telle standardisation de l'unique. Hein, pour reprendre une formule de Walter Benjamin, standardisation de l'unique, avec des manières, dès le départ, d'aller capter un public pour en faire un succès. Ça, on le voit, ça se sent à la lecture. Enfin, je pense qu'un libraire est très sensible à ça aussi.
Oui, juste une petite... puisque le libraire est interpellé, donc une petite remarque là-dessus. C'est-à-dire que, oui, et pour autant, il y a aussi des romans qui sont formatés et qui sont construits de cette manière-là et qui ne fonctionnent absolument pas. Il y a quelque chose comme... Il y a un petit mystère
encore
qui reste bien présent dans cette fabrication.
Mais, et pour être concret, je voudrais... Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais prendre un exemple tout simple. J'ai eu un moment l'idée de faire un roman sur un dictateur. Si j'avais fait...
Très grand roman, Maréchal absolu, chez Gallimard.
Si j'avais fait un roman, par exemple, je prends Saddam Hussein, je me documente sur Saddam Hussein et je fais un roman qui va se passer en Irak autour de Saddam Hussein. Qu'est-ce qui se serait passé par rapport à ce que je voulais faire? Les lecteurs auraient été retenus par... ils parlent d'une réalité, c'est très bien, c'est intéressant... Il y aurait eu des tas de détails qui auraient été croustillants. Il y a aussi un fétichisme du détail dans la littérature qui, d'une certaine manière, nous permet de faire l'impasse sur l'essentiel qui est ce qui se passe dans la langue, à mon avis. Je pense que j'aurais fait un livre sur Saddam Hussein et pas sur la dictature. Je me suis passé j'ai utilisé un certain nombre de renseignements sur lui et pas seulement que sur lui, mais j'ai créé un dictateur imaginaire. Pourquoi est-ce que j'ai créé un dictateur imaginaire? Précisément pour faire passer... Ce que je voulais dire, à mon avis, enfin qui me tenait à cœur en tout cas, c'est qu'une dictature, c'est d'abord précisément pour moi la création d'un certain imaginaire qui réussit, qui s'impose à une société. Si j'avais pris un dictateur réel, ça n'aurait pas marché. Il me fallait un dictateur imaginaire pour le faire sentir, c'est-à-dire pour synthétiser et pour pousser à bout d'une certaine manière, presque jusqu'à l'absurde, ce travail de l'imaginaire. Et du coup, j'ai beaucoup plus précisément atteint ma fonction. Et du coup, j'avais plus de chances, d'une certaine manière, de rejoindre plus directement la réalité, puisque je me suis aperçu, au moment où j'écrivais les dernières pages du Maréchal absolu, que la dictature de Bachar el-Assad commençait à s'effondrer exactement, je ne voudrais pas me vanter, mais exactement dans les termes dans lesquels j'avais décrit le début de mon roman.
Les Syriens l'ont peut-être lu.
En fait, ce que j'entends à travers vos deux... position par rapport à la littérature, c'est que tout se passe comme si il y avait la quête d'un centre, on va l'appeler comme ça, qui aurait été caché, dérobé en quelque sorte, et qui serait, à travers les efforts que vous faites pour le réactiver, pour le remettre à jour, qui serait en fait la vérité. C'est la vérité que vous recherchez à travers vos écrits.
Par exemple, pour prendre un nouvel exemple, je ne sais pas si on peut en parler, Patrick Tudoré, du livre que vous allez faire paraître bientôt, qui est un biopic, une biographie de Fromentin. Voilà, parce que là, on est justement dans presque un contre-exemple
Oui, sauf que là, c'est un genre particulier. Oui. On n'est plus dans le roman,
on est toujours dans la littérature, potentiellement. On peut l'être, en tout cas.
On est dans la biographie, donc là, évidemment... il est toujours délicat de prêter à un personnage réel donc une vie à l'opposé de ce qui a été la sienne. Donc là, évidemment, je reste dans le réel.
C'est un peu frontalier, hein, c'est une question de genre. Est-ce qu'une grande biographie est plutôt de l'histoire ou plutôt de la littérature? C'est difficile à dire.
On est sur une ligne de crête. C'est complexe parce qu'à tout moment, on risque de verser d'un côté ou de l'autre. Et si on verse du côté vraiment de la réalité, je me souviens d'un mot de Platon qui disait « Ce qui convainc n'est pas le vrai, mais le vraisemblable. » Et c'est quelque chose qui m'a toujours... Moi, j'enseigne la rhétorique et c'est vrai qu'en rhétorique, c'est un maître mot, ça. « Ce qui convainc n'est pas le vrai, mais le vraisemblable. »
C'est pas Boileau qui disait « Le vrai n'est pas toujours vraisemblable.
» Si, il l'a dit, mais bien plus tard que Platon.
Vraisemblablement.
Vraisemblablement. Tu as raison, c'est vrai. Et donc, il y a là quelque chose de... On est vraiment sur la ligne de crête. C'est complexe. Et une biographie, une biographie qui ne serait purement factuelle et sans représentation. C'est la, hein, le monde comme volonté, certes, une volonté affirmée, mais qui serait purement factuelle. Bah, ça donnerait quelque chose de très plat. Il faut de la représentation, il faut de l'interprétation, il faut du relief qui est donné par sa propre sensibilité, sa propre manière de voir. Et il est évident que c'est l'auteur lui-même qui va donner le relief potentiel, enfin le plus possible à une biographie, même si la vie de celui qui est croqué, si je puis dire, est romanesque à souhait, ou, etc. Mais en tout cas, il y a cette part-là. Et donc, à certains moments, savoir slalomer, je dirais, entre les deux, pour s'approcher humblement de ce qu'on appelle la littérature.
Alors, il y a eu un mot qui a été lancé tout à l'heure, je ne sais plus par qui, mais On ne va pas dire ce qu'est un bon livre, mais on a évoqué des possibilités qu'il y ait des livres qui ne le soient pas.
Oui, en effet.
Voilà. Alors, ça tient à quoi ? La justesse de la langue. Pour définir, par exemple, ce qui vous hérisse l'un et l'autre, du côté des livres écrits, c'est-à-dire que je pense que même vous iriez jusqu'à les qualifier de non-littérature, ou en tout cas...
Non, on ne peut pas, je veux dire, scientifiquement, ça fait partie de la littérature, ça on la classera...
D'accord, donc c'est de la littérature, mais il y a donc des livres qui pêchent. Est-ce que c'est dans leur rapport justement à ce travail autour du traitement du réel ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est, justement, vous l'évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, le formatage ? Qu'est-ce qui serait un peu comme ça pour éclairer nos lanternes, à vos avis ?
Moi, évidemment, je marque bout sur... J'y ai passé quand même pas mal d'années, donc je marque bout un peu sur le travail que j'ai fait donc, sur les rapports, les liaisons dangereuses hein, entre la télévision et les écrivains, et qui disent bien des choses. Et j'avais adopté une espèce de classification, de taxonomie personnelle, qui classait la littérature en gros en trois mouvements, trois manières de faire. La littérature d'assentiment, qui est la littérature vraiment la plus large possible, dans laquelle on trouve ce que Yaos, par exemple, appelait la littérature domestique. Une littérature qui mange pas de pain, quoi, qui fait pas de mal, qui ne botte pas le cul du lecteur, comme disait Flaubert, et qui se contente, voilà, une espèce d'enregistrement sympathique, ou cuculapraline, et c'est une littérature qui est majoritaire, hein. Il faut bien en être conscient. Elle est majoritaire, cette littérature. Arthur, c'est pas de mal, voilà. Vous devriez lire ça, c'est bien.
On dit souvent ça en librairie.
Voilà. Et puis, il y a une autre forme de littérature dans laquelle j'essaie de m'inscrire, et Pierre, je le rangerai aussi dans cette catégorie, qui est la littérature de dissentiment. C'est-à-dire de ne pas se contenter d'un ordonnancement du monde quel qu'il est, de pousser de temps en temps des petits coups de gueule, de faire de la littérature un sport de combat, comme l'a dit excellemment Pierre, ou une tauromachie, comme l'a dit Aléris, d'être dans une confrontation avec le monde. Bon, et quelque chose qui est de l'ordre de la boxe. Et puis le troisième la troisième manière d'être, qui produit aussi de belles choses. Autant dire que, évidemment, la plus grande littérature se fait dans le dissentiment, ça va de soi. Et puis, il y a une partie qui est ce que j'appelle la littérature de ressentiment, et qui, elle, alors là, on peut y mettre des gens qui se sont tués eux-mêmes, hein, intérieurement, ils se sont bousillés allègrement, mais qui ont laissé de ce bousillement quelque chose d'extraordinaire. C'est Baudelaire, c'est Céline, c'est aujourd'hui Houellebecq, qui pour moi sont dans le ressentiment, avec vraiment une espèce de rage, d'aigreur même. Baudelaire était quelqu'un d'extrêmement aigri. Ça n'empêche pas son génie, mais il était d'une aigreur absolue. Il suffit de lire ses écrits intimes. Enfin, c'était abominable. Ça tournait à la névrose. Mais ça a donné des choses extraordinaires. Donc, il faut choisir un petit peu son camp, si je puis dire. Ou alors, ça se fait naturellement parce qu'on a un certain regard sur le monde.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est différentes... Bon, qu'on pourrait discuter à l'infini, mais que ces différentes que ces différentes catégories ne préjugent pas de la valeur. C'est-à-dire que on peut se planter complètement dans la deuxième catégorie, comme on peut faire des réussites.
Bien entendu,
la première.
Bien entendu. Ouais, c'est pas une garantie. Hein,
Non. D'abord, un premier constat. Ce que nous connaissons de la littérature, ce que nous apprenons de la littérature. En gros, disons à 75%, allez, ou à 80%, c'est la bonne. Celle qu'on apprend à l'école. c'est celle qui a passé le cap à peu près. Alors après, il y a sans arrêt effectivement des réévaluations. Il y a des auteurs oubliés qui étaient des très bons auteurs qu'on remet. Ça a été le cas de Nerval, par exemple, excusez du peu. Puis il y en a d'autres qui tombent peu à peu dans l'oubli. Mais en gros, voilà. Et donc nous ne savons pas quelle est la mauvaise, en fait, par notre éducation, par ce que nous apprenons. Et la chose la plus instructive, justement, quand on fouille un peu dans la littérature, c'est d'aller fouiller les poubelles de la littérature pour voir quelle est celle qui n'a pas passé le cap des siècles et pourquoi elle est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise ? Pour le 19e siècle, je peux vous donner une réponse très simple. Elle s'exprime exactement de la même manière comme on s'exprimait dans les journaux de l'époque. C'est-à-dire qu'elle prend le langage pour le réel. Elle croit dire quelque chose en reprenant des formules, et elle ne dit rien. Autrement dit, elle fait de la littérature. Elle n'essaye pas de tordre le langage pour aller à la recherche d'une expérience vraie. Elle reproduit des choses, et donc elle fait de la langue, elle fait de la littérature. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un écrivain, vous avez l'impression d'écouter le journal de 20 heures. Et donc, reproduisant un certain nombre de formules, il a l'impression de parler du monde. Il parle pas du monde, il fait parler la langue toute seule. À mon avis, c'est pas la seule manière d'être mauvais, mais c'en est la principale.
Et cette remarque, vous l'appliquez aussi bien à la littérature d'un sentiment qu'à la littérature de dissentiment, qu'à la littérature du ressentiment, comme il a été dit précédemment.
Non, effectivement, il faudrait quand même complexifier le constat. Ça concernerait plutôt la première catégorie, quoique parfois. Mais il y a, à mon avis, il y a des livres d'avant-garde qui sont insupportables. Mais parce que là encore, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que ces livres-là ont une manière, alors radicalement à l'opposé, mais là encore, de mettre la littérature avant tout, d'une certaine manière, et non pas de la refuser. La refuser pour la mettre au service d'une quête de la réalité. On a l'impression que, là encore, c'est une pure... pour moi, hein, quand c'est pas bon, c'est que j'ai l'impression que c'est une pure démonstration esthétique, démonstration langagière. Alors, c'est pas le même langage que le langage du journal, mais voilà, c'est le même principe.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do let do that to the pot, bona body boat, but do the bottle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring.
up and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight.
Émission Libres Échanges en compagnie de Pierre Jourde et Patrick Tudoret qui nous parle de la littérature dans ses rapports avec le monde.
J'ai envie de vous poser une question commune à tous les deux. C'est en fait, mais vraiment, dans la représentation, si on la place comme effectivement un flambeau qui nous sert à mieux voir ce qu'est la réalité, où allez-vous chercher la valeur de l'œuvre? Comment la justifiez-vous?
Je vais y venir, mais Patrick, là, j'ai
beaucoup c'est parlé. Marqué derrière, en quatrième de couverture, à côté du code barre.
C'est vrai, c'est vrai. C'est marqué dans les critiques de Télérama qui figurent.
Voilà, alors ça, effectivement, il y a un certain nombre de journaux qui n'hésitent pas, comme à l'Eurovision, hein, avec des, ou au patinage artistique, à décerner, voilà, trois petits bonshommes, trois machins. Moi, j'appelle ça une régression. On n'a pas besoin de ça. La critique n'a pas besoin de ça. Bon, mais la valeur de l'œuvre, elle est doxique et toxique, quoi. C'est-à-dire qu'elle est, il faut bien le dire que elle est donnée aujourd'hui par un certain nombre de médias dominants. Voilà. Et donc, quand on a la chance que ça se passe bien, tout est bien. Mais on ne citera pas, mais un certain nombre de médias qui sont quand même dans la doxa ultra dominante. Et qui justement se permettent de mettre en avant un certain nombre de livres qui répondent quasiment tous d'ailleurs au même standard, voilà, hein, qui sont dans le politiquement correct dominant, dans les idées soi-disant d'avant-garde dominantes, avec une utilisation du langage qui voudrait faire passer ça pour donc une espèce de recherche peut-être au ras du bitume, mais la conséquence c'est ça, mais au ras de du réel soi-disant, voilà, comme si le réel rasait le bitume ou les comptoirs, et c'est là où le travail des libraires ou des critiques est d'aller vraiment comme dans une jungle au coupe-coupe, essayer de trouver. Moi je passe mon temps à parler de livres dont personne ne parle, et j'en suis vraiment désolé pour certains, parce qu'il y a des très très beaux livres qui paraissent en France, et d'auteurs qui sont pas lus, dont personne ne parle, où il n'y a pas d'article. Et pourtant je vois, je lis chaque année des livres qui sont remarquables, de talent, de force, d'invention, etc.
La question que vous posez, oui. La question que vous posez implique un présupposé justement qui est intéressant, c'est qu'il faille de la valeur. Or, cette nécessité me semble profondément mise en question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un discours ambiant qui consiste à dire que, précisément, tout en a. De même que le premier imbécile venu qui va venir à la télévision sera intéressant ipso facto parce qu'il est lui-même, de même on considérera que toute production de l'esprit sera intéressante parce qu'elle existe. Donc, il faut déjà préserver l'idée de valeur, ce qui n'est pas évident. Hein. Je dirais presque que dans certains discours, c'est réactionnaire, l'idée de valeur. C'est réactionnaire parce que c'est un classement. Or, tout classement est réactionnaire dans l'espèce de folie égalitariste qui a envahi aussi le domaine des arts. Premier point. Mais je crois que c'est suicidaire. Je crois que la valeur est nécessaire, parce que la valeur, ce qui différencie la valeur des œuvres, c'est celles qui nous, comment dirais-je, celles qui sont créatrices. Non pas celles qui sont créées, c'est celles qui sont créatrices. Qu'est-ce qu'une œuvre créatrice? C'est celle dont le langage parvient à mettre en relation en nous des choses qui auparavant étaient cloisonnées. Et qui tout à coup s'éclaire mutuellement. C'est ça une œuvre créatrice. Maintenant, comment la mesurer, cette valeur? Jusqu'à présent, il y avait des instruments. Enfin, disons jusqu'au 19e siècle, il y avait des instruments. L'Académie pouvait faire des remarques sur le CID en expliquant que c'était raté. Elle avait tort, pour le coup. Il y a des instruments qui ne marchaient pas toujours. Ou il y avait des instruments moraux. Il y avait des instruments esthétiques, il y avait des instruments moraux. Nous n'avons plus ces instruments. Donc nous sommes absolument dans le flou pour déterminer la valeur. La manière de déterminer la valeur, c'est le langage. Et donc la lutte. C'est d'où la nécessité, je crois, d'une critique, aussi bien positive que négative. Et donc la valeur de l'œuvre doit passer par le langage critique, qui ne doit pas être nécessairement d'assentiment. C'est-à-dire qu'un jugement positif sur une œuvre n'a de valeur que si on sait qu'il aurait pu être négatif. Si on sait que de toute façon il est positif, il n'a aucune valeur. Maintenant, quel est le critère essentiel de cette valeur? Je crois que je viens de le de l'énoncé, hein, la capacité créatrice d'une œuvre, la capacité qu'elle a, non pas à nous rencogner dans notre confort, c'est-à-dire à nous dire que « ah oui, c'est bien ça, je le reconnais, ah oui, c'est bien moi, je me reconnais », mais au contraire, à nous défigurer, transfigurer, perdre un peu, hein, de manière précisément à aller plus, toujours plus loin en nous, ou dans le monde. Et la seule manière de le déterminer, c'est d'abord une manière négative, c'est-à-dire de montrer, par exemple, que ce langage-là ne fait rien parce que ce langage est mort, et ça, ça peut se montrer simplement parce qu'il reprend des formules toutes faites. Et après, pour le positif, c'est plus compliqué, mais voilà, on peut y arriver.
Alors, on peut se tromper aussi, parfois.
On peut se tromper, bah, bien sûr, on peut se tromper.
Alors, est-ce que ce que vous dites l'un et l'autre, moi, j'entends aussi quelque chose de subvertif, bon, une subversion à l'œuvre, c'est-à-dire quand on... d'une capacité créatrice, j'ai l'impression d'entendre aussi, par exemple, lorsque Deleuze parlait des plis qui rapprochent, qui retournent un peu la peau de la réalité qui est une construction imaginaire, vous l'avez dit l'un et l'autre. Est-ce que c'est une nécessité subversive pour être justement dans une perspective créatrice? Est-ce qu'il faut forcément secouer quelque chose, réveiller quelque chose, sortir quelque chose?
C'est un cliché moderne. D'accord. C'est un cliché moderne. Je donne un exemple écrasant. Lorsque l'État islamique a détruit les représentations de taureaux ailés dans les grands temples assyriens, il y a eu une émission de France Inter là-dessus, et il y avait une espèce de leitmotiv qui revenait, une espèce de montage sonore qui revenait dans l'émission là-dessus, qui était « l'art est révolte »,« l'art est révolte », etc. Autrement dit, il fallait comprendre que... ces taureaux ailés qui avaient été détruits par Daesh, qui étaient en fait des manières de figurer à la fois la soumission aux dieux et la soumission au pouvoir assyrien, c'était de la révolte. C'est complètement idiot. C'est ignorer toute l'histoire de l'art de penser que l'art est par essence révolte quand il a été, pour la plupart de son histoire, l'expression des valeurs dominantes. Et ça ne l'empêchait pas d'être de l'art. C'est pas par là que ça passe. La question artistique. L'art peut très bien exprimer les valeurs fondamentales d'une société, et pourquoi pas d'un pouvoir, et néanmoins dire quelque chose de ce que nous sommes.
Oui, l'art dominant pendant des siècles a été l'art de commande. Enfin,
tout à fait.
L'art religieux, par exemple.
L'art religieux, l'art de commande, on voit bien. Enfin, Léonard a passé sa vie à répondre à des commandes sans jamais les finir. D'ailleurs, il était connu pour ça. Il en a fini quelques-uns, heureusement. Oui, bien sûr. Donc, on a aujourd'hui une espèce de... c'est ce que Muret appelait les mutins de Panurge. Donc, cette espèce de folie à vouloir absolument exalter la rébellitude. C'est quand même très fatigant. Et en faire l'aune absolue à partir de laquelle on doit juger la littérature.
Lorsque
cliché,
Bach,
effectivement, lorsque Pierre
Bach
a raison,
lorsque Bach, dans ses cantates, oui, exprime une foi qui est la foi dominante à son bien époque, protestant, dans l'Allemagne luthérienne, bien etc., sûr. Il n'est pas rebelle pour un sou, et pourtant il dit quelque chose,
contraire,
peut-être plus profondément qu'on n'a jamais dit sur l'âme humaine.
Bien sûr. Et donc, ce que disait Pierre Jourde là, à l'instant, évoque deux choses très importantes à mon avis, qui sont, il l'a dit, la disparition des grandes instances de légitimation. Mmh. Hein, on parlait évidemment de l'académie. Bon, aujourd'hui, bon, l'académie, est-ce qu'elle est, c'est ce qu'elle peut, hein, mais bon. En tout cas, elle n'est plus arbitraire et le grandiarum.
Pour ce qui est d'instances de légitimation, là, ça est de plus en plus raté.
Voilà. Parce que... Et puis, l'université. Là, Pierre et moi connaissons bien. L'instance de légitimation, la critique universitaire qui a été très importante pendant longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit, soit très écoutée.
En tant qu'universitaire, je mettrais un bémol.
Il y a un travail de fond. Mais est-ce qu'elle est entendue?
Elle s'intéresse à la littérature contemporaine.
Bien sûr. Mais est-ce qu'elle est
entendue?
Elle
publie même des ouvrages, des études sur les œuvres contemporaines. C'est un travail important. Et entendu, non, mais l'université l'a-t-elle jamais été? C'est une autre question. Non, elle fait un certain travail. Elle a été longtemps victime précisément du refus de s'engager dans la question de la valeur. Ça a un petit peu changé. Enfin, c'est une remarque en passant.
Enfin, il fut un temps où elle était tellement entendue qu'elle envoyait au bûcher. Hein,
oui, c'est vrai.
Hein, Sorbonne, bon, les Sorbonnagres, comme disait Rabelais. Et puis l'autre aspect, donc, c'est vraiment le. J'en suis un. Hein, l'autre aspect, c'est, on citait Deleuze qui avait une expression à Gattari, il parlait de l'équivaloir généralisé. Voilà, le relativisme triomphant. Voilà. Plus d'hierarchie, Il est interdit de hiérarchiser les œuvres, d'en mettre certaines en haut et d'autres plutôt à la dernière étagère, etc. C'est interdit.
Allez dire à quelqu'un qui fréquente les restaurants qu'il est interdit d'hiérarchiser les restaurants, ben oui. Et dites-lui qu'une gargote à 150 balles où on mange très mal est excellent, il va y aller, il va pas être content. Je veux dire, il n'y a pas de raison de faire différemment pour la littérature.
Et les seuls qui font finalement ce travail aujourd'hui, de manière, bon, il y a les critiques qui le font, il y en a encore quelques-uns. Mais la critique bon, est dans un état critique, tout de même. Mais ce sont les libraires qui ont pris la main, pour beaucoup. Les vrais libraires, qui bah, parlent des livres, font des fiches. Des
Ville flatteur.
Oui, c'est un constat.
Oui, c'est vrai.
Toi et moi en avons bénéficié. Donc,
je le prends quand même comme, pour ma corporation, un compliment, sachant que le libraire critique... toujours dans le sens le plus hasardeux, qui est celui du positif. C'est-à-dire les livres qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. Ou du moins très rarement, il y a des libraires qui font un peu exception à ça. Mais
vous ne refusez pas de vendre un livre.
C'est ça, nous sommes aussi des commerçants. <c'est pas. rire>
Je voudrais revenir un petit peu sur une convergence que vous avez exprimée tous les deux sur le langage, pour vous poser une question sur la sensibilité qui passe à travers la métaphore. Est-ce que la métaphore est partie prenante d'un sens et d'un sens du réel tout en évitant la ligne droite, l'accès direct?
Barthes disait que la littérature est un langage indirect. C'est exactement ça. Bon, il faudrait relire ce qu'a dit Ricoeur sur la métaphore, ça nous aiderait. Cela dit, je me méfie de la métaphore. Je me méfie de la métaphore. Il y a trop d'écrivains à métaphore. La métaphore, je veux dire, on peut facilement se planter dans la métaphore. Et les choses les plus terribles que je relève dans la littérature, dans le livre contemporain que je lis, c'est les métaphores à tiroir qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous savez, par exemple, enfin, pour parodier Monsieur Prudhomme, hein, le char de l'État navigue sur un volcan. On en lit beaucoup. Donc il faut faire très attention. C'est un objet un peu explosif, la métaphore. La métaphore juste, ça existe, mais c'est. Alors j'en ai eu un exemple. Et c'est vraiment là, c'est un travail d'acrobate. Vous savez, c'est un travail d'acrobate. C'est-à-dire que vous lancez dans l'air et si vous ratez, c'est terminé. C'est ça la métaphore. Et bam, ça n'est pas de cadeau. Ardennes de Frédéric Vergès, qui est sorti il y a 3 ans, je crois, qui a raté le Goncourt de très peu, qui est un livre plein de métaphores, extrêmement. Où il va les chercher dans des régions curieuses de l'esprit, et elles sont toutes justes. Mais ça, c'est vraiment un exemple rare.
Donc, en fait, pour vous, le principe n'est pas un principe de résonance au sens, mais d'une incarnation à travers les mots de ce qu'est effectivement la réalité.
Si on regarde ce que fait le travail que fait Proust sur la métaphore et la manière dont il en parle d'ailleurs, la métaphore lui sert de filtre. Et de filtre, comme un filtre coloré sur un appareil photo, et de filtre qui sert en quelque sorte à donner une cohésion à la réalité. C'est-à-dire Proust va filer une métaphore, et tout à coup, ce qu'il observe va être pris dans une espèce d'unité, et c'est précisément ce qu'il cherche à rendre, c'est-à-dire que quand notre expérience est dispersée, disséminée, elle ne trouve pas son sens. Hein. Et là, il va la mobiliser en quelque sorte par la métaphore.
The parson's daughter with red and rosy cheeks. She went to church on Sunday and sang the anthem sweet. The parson was a misery, so scraggy and so thin. Look here, you motherfuckers, if you lead a life of sin, then there's fire down below. He took his text from Malachi and pulled a weary face. Well,
Africa, and there I fell from grace, 'cause there's fire down below. The parson's little daughter was as sweet as sugar candy. I said to her, a sailor's would make lovers neat and handy, 'cause there's fire down below. She says to me, you sailors are a bunch of fucking liars. And all of you are bound to hell to feed the fucking fires, 'cause there's fire down below. Down below, my lads, so we must do what we ought to. Cause the fire is not half as hot as the parson's little daughter. There's fire down below. Yes, there's fire.
Bien, on atteint la dernière partie de l'émission et je crois qu'il serait quand même intéressant sur une émission qui traite de littérature et de société de vous poser tous les deux la question de qu'est-ce que la littérature donne à voir de la société actuelle.
Grand silence.
en tout cas, Patrick Tudoret, pour répondre sur cette question, donc votre livre tout récent, que je citais en introduction, L'homme qui fuyait le Nobel, est-ce que justement, c'est pas là aussi une métaphore de la littérature qui fuit le monde, ou du monde qui ne fait plus de place à la littérature comme elle se devrait, comme le monde se devrait de lui faire une place, enfin lui fuit, il n'en veut pas du Nobel.
Oui, ça aurait pu s'intituler L'homme qui fuyait le Nobel, ça aurait pu être L'homme qui fuyait les vanités du monde, et il était aussi perméable qu'un autre à ses vanités, hein, puisqu'il les a acceptées allègrement. Sauf que là, il s'est passé pour lui, pour Tristan Talbiank, donc le héros du livre, quelque chose de fondamental qui a été la mort de sa femme. Voilà. Et à partir du moment où il y a eu ce cataclysme, le monde ne l'intéresse plus. Voilà. En tout cas, le monde, la mondanité, hein, comme le disaient les jésuites ou les pères de l'Église, la mondanité ne l'intéresse plus. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est de renouer avec sa femme, un vrai dialogue, ce qu'il fait d'ailleurs. Une fois debout à nouveau, puisque c'était un homme à terre, il se remet à écrire, et lui qui avait décidé d'arrêter d'écrire, il est pris au piège, il se met à lui écrire des lettres. Et donc oui, là, effectivement, la métaphore de la fuite, je pensais, d'ailleurs je cite à la fin du livre, mais les chaises saintes de Saint Jean Climac, les salles saintes qui étaient, voilà, ce fameux bréviaire, voilà, pour les pères de l'Église, enfin pour ceux qui allaient dans le désert, il cherchait l'élévation spirituelle, et je crois que le deuxième degré de l'échelle sainte, c'est la fuite. La fuite, voilà, la fuite. Mais ce n'est pas une fuite au début. Lui, sa fuite est une fuite pavlovienne, je dirais. Il est pris de panique. Hein. C'est même pas raisonné. Hein. Il s'enfuit parce qu'il est pris de panique devant le vacarme que suscite cette nouvelle. Voilà. Mais la fuite, oui, pour... Alors, est-ce que la littérature est fuite? Bon, ça, après, c'est vaste question. Mais en tout cas, lui, c'est une fuite qui, je dirais, qui le remet en selle, qui le remet en marche et qui lui permet d'être à nouveau un homme parmi les hommes. Et il était devenu un véritable spectre. Voilà. Et au fond, cette fuite, enfin, je pense au mot qui est dans le livre de Nabokov, qui disait le bruit terrassera le monde, courage fuyons. Voilà. Et le bruit, aujourd'hui, vous savez que le bruit médiatique se mesure. Hein. Il y a des mesures de bruit. Voilà. Quel homme politique fait le plus de bruit? On pourrait penser au pétoman. Hein. Qui fait le plus de bruit? Effectivement, il y a ceux qui font beaucoup de bruit. Après, est-ce que le bruit est porteur de sens? C'est autre chose. Voilà. Et lui essaie de partir vers des confins où le silence est plutôt dominant et où... Ou je dirais, voilà, pour suivre le bon précepte chinois, voilà, si tu avant de parler, assure-toi que le silence n'est pas plus beau que la parole.
Pendant longtemps, en tout cas en France, hein, c'était différent aux États-Unis. Pendant longtemps, il me semble qu'on a attendu que effectivement la littérature française prenne au corps la société française. Et puis Houellebecq est arrivé. mais c'est sans rire. Je crois qu'il a comblé un manque, une absence profonde, parce que il a en plus une sorte de discours englobant, à la fois sur la société, sur la réalité de notre monde, sur l'histoire contemporaine, et aussi une sorte de discours presque métaphysique sur le monde. Donc voilà une œuvre ambitieuse qui nous parle de la réalité et qui parle de la réalité sans faire l'impasse sur les détails les plus concrets. Pendant longtemps, mais c'est encore en grande partie le cas, pendant longtemps, parler de la réalité, c'était dévolu à un genre secondaire qui était le roman policier. C'était au fond le seul qui nous parlait de la réalité. La réalité sociale.
Avec le témoignage, peut-être. Mais qui n'est.
Et le témoignage, c'est vrai. Et c'est certainement une des raisons du succès de La Fée Carabine de Pénac à un moment donné, c'est parce que tout à coup on s'est aperçu que voilà, ça nous parlait de choses très concrètes, la spéculation immobilière à Belleville, tout ça mis dans une forme évidemment captivante, intéressante. Alors maintenant il se passe des choses. Maintenant il se passe des choses. Je pense notamment au roman très réussi de Sophie Divry, La Condition pavillonnaire. Qui est une espèce de mixte de une vie de Maupassant et de un cœur simple, enfin de choses comme ça, et qui décrit de manière très très factuelle la vie d'une femme d'aujourd'hui, avec en quelque sorte on a l'impression qu'elle passe par toutes les étapes obligées. C'est ça qui est très fort dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que nos vies sont faites d'étapes obligées, on n'y échappe pas, c'est terrible. De ce point de vue-là, c'est un très beau livre, en effet. Il me semble qu'il y a des manques, peut-être, mais peut-être que je ne lis pas assez non plus, peut-être que Olivier Lostis pourrait me dire que j'ai tort. Est-ce qu'on parle suffisamment, par exemple, de ce phénomène social massif que sont aujourd'hui les fins de vie qui n'en finissent pas, en quelque sorte.
Une émission précédente.
Est-ce qu'il y a vraiment des livres ou des grands livres là-dessus, ou des livres ambitieux là-dessus? La condition humaine est de plus en plus une condition bureaucratique. Est-ce qu'il y a des livres là-dessus? Je pense que la partie la plus réussie, par exemple, des bienveillantes de Little, c'était de montrer que le nazisme était une folie bureaucratique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grands romans là-dessus? Voilà.
Nous sommes contraints de conclure là-dessus. On aurait encore beaucoup, sans doute, de questions à vous poser.
Sûrement.
Et vous, certainement, plein de choses à nous dire. Le temps de l'émission est terminé. On vous remercie beaucoup, Patrick Turet, Pierre Jourde. Et puis, Gabriel, je te laisse conclure.
Écoutez, j'espère que cette émission vous aura ouvert de nouvelles représentations de ce que peuvent être la littérature, mais aussi peut-être les faits que vous percevez à travers les médias dans la société. Et sur cette espérance, on vous salue, Olivier et moi, chaleureusement. À bientôt.
There's a kill.